They know the set. Wooden promises.
Well done.
Comme un homme et glorieux.
Il est
7h.
Lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU sur RFI.
À l'écoute d'RFI, il est 7h à Paris, 9h à Tamatave.
RFI Matin.
Et 6h en temps universel, c'est le journal sur RFI. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Le Bangladesh veut tourner la page Sheikh Hasina.
Du nom de cette ancienne première ministre autoritaire destituée à l'été 2024 après le soulèvement de la Gen Z. Le 8e pays le plus peuplé au monde vote aujourd'hui pour un scrutin législatif crucial qui opposera nationalistes et islamistes dans les urnes. Nous serons en direct du Bangladesh avec Abdoulaye Rali. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir, au moins 31 morts à Tamatave, deuxième ville de Madagascar. Après le passage de la tempête Guezani, l'urgence est de reloger les 250 000 sinistrés, alors que le cyclone pourrait se renforcer lors de son passage dans le canal du Mozambique. La France réclame la démission de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, pour des propos outranciers, selon le chef de la diplomatie française. Propos déformés, mal interprétés, dénonce l'intéressé. Non-lieu confirmé en cassation dans l'affaire Adama Traoré en France. Sa famille ne compte pas s'arrêter là et annonce saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis enfin, un jeune homme sauvage, Sam Sauvage, dévoile sa chevelure et sa voix de crooner en fin de journal.
127 millions de Bangladais appelés à se rendre aux urnes ce jeudi.
Pour des élections législatives cruciales, le premier scrutin depuis la destitution et la fuite de la première ministre Sheikh Hasina. C'était à l'été 2024, après le soulèvement de la Gen Z, une révolte étudiante réprimée dans le sang qui avait fait 1400 morts. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h30. Heure locale, il est désormais un peu plus de midi dans la capitale Dhaka, où l'on retrouve notre envoyé spécial Abdoulaye Rali. Abdoulaye, est-ce que les électeurs répondent présents ?
Nous attendons encore les premiers chiffres officiels de la participation, mais ici à Dhaka, l'affluence varie énormément d'un centre à l'autre, sur les plus de 2000 bureaux de vote que compte la capitale. J'ai vu des centres presque vides ce matin et d'autres où les files d'attente, en revanche, sont impressionnantes. C'est là notamment, c'est le cas notamment près de la commission électorale. J'y ai rencontré un homme de 65 ans qui me confie n'avoir pas voté depuis 15 ans. Pour lui, ce scrutin, en ce moment, est le symbole d'un renouveau. Même enthousiasme chez ce jeune de 20 ans, issu de cette génération Z, qui a porté le soulèvement de juillet 2024. Pour lui, voter aujourd'hui, c'est concrétiser le changement de modèle pour lequel il s'est battu dans la rue.
Abdoulaye, cette législative, elle s'accompagne également d'un référendum constitutionnel. Au-delà du vote, le Bangladesh qui cherche à changer de modèle politique.
Oui, les électeurs ont deux bulletins de vote aujourd'hui. Le premier pour élire leurs députés, 300 sièges sont à pourvoir. Et le second bulletin concerne ce référendum pour changer de modèle politique. C'est ce qu'on appelle ici la charte de juillet, en référence au soulèvement de juillet 2024. Et l'une des mesures phares est très symbolique. Elle vise à limiter strictement le mandat du Premier ministre, limité à deux mandats maximum, afin d'éviter toute nouvelle dérive autoritaire au Bangladesh.
Merci Abdoulaye Rali, en direct de Dhaka, des élections législatives au Bangladesh que nous suivrons toute la journée sur RFI.
À Madagascar, le bilan de la tempête Guezani s'est considérablement alourdi en 24 heures.
Au moins 31 morts à Tamatave, deuxième ville de Madagascar. Près de 75% de la ville est détruite, selon le colonel Michael Ranjanirine, le président de la refondation. La ville compte 250 000 sinistrés, plus de la moitié de la population de Tamatave. Les rafales de vent atteignant jusqu'à 270 km/h ont emporté la plupart des toitures de l'île, les autorités qui alertent aussi sur de potentielles propagations du virus. Guezani rétrogradé en tempête et qui est désormais dans le canal du Mozambique. Le Mozambique justement menacé désormais puisque le cyclone pourrait regagner en puissance dans les prochaines heures, selon François Bonardo. Il est responsable du service prévision de Météo France à La Réunion.
Il va retrouver les bonnes conditions pour se réintensifier puisqu'il va de nouveau avoir son réservoir d'eau chaude. Les eaux du canal du Mozambique sont très chaudes à cette époque de l'année. Enfin, c'est un réservoir d'énergie, donc plus l'eau est chaude et plus elle est chaude en profondeur, plus les cyclones, lorsqu'ils transitent sur l'océan, ont de réservoirs, poursuivent leur intensification. Et donc, il va très rapidement retrouver un stade de forte tempête, puis très probablement un stade de cyclone tropical avant de venir flirter avec la côte sud du Mozambique. Et maintenant, les yeux sont un peu rivés sur le Mozambique pour la suite des événements. temps d'ici 2-3 jours.
François Bonnard, rejoint par Simon Rosé, le passage de Guézani sur Tamatave raconté par ses habitants. Témoignage à retrouver sur notre site internet RFI.fr.
Et dans le prochain journal à 7h30, une 7e à huis clos, Benjamin Netanyahou de nouveau reçu par Donald Trump.
Pour la 7e fois depuis le retour du milliardaire républicain à la Maison Blanche, le Premier ministre israélien se rendait à Washington. Une rencontre cette fois-ci sans la présence de la presse. Donald Trump dit avoir insisté sur sa volonté de poursuivre des discussions avec l'Iran. Benjamin Netanyahou a lui demandé à son homologue de prendre en compte les besoins sécuritaires israéliens dans ses pourparlers. Le chef du gouvernement de l'État hébreu qui a aussi annoncé qu'Israël allait rejoindre le Conseil de la paix de Donald Trump, dont la première réunion entre dirigeants doit se tenir dans tout juste une semaine à Washington. Visite sur laquelle nous revenons dans un instant avec Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Il sera l'invité d'Arnaud Pontus juste après ce journal. Et pendant ce temps-là, Andréane, en France, eh bien la France qui demande la démission de la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, en poste depuis mai 2022, qui aurait tenu des propos polémiques sur la chaîne qatarienne Al Jazeera. Propos qui ont fait bondir Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. La France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, demandera officiellement sa démission le 23 février prochain, lors de la prochaine session du Conseil. Problème, les propos rapportés de Francesca Albanese ont pour le moins été déformés et ne correspondent pas à ceux réellement prononcés, Aurélien Devernois.
Madame Francesca Albanese n'est ni experte, ni indépendante. C'est une militante politique qui agite des discours de haine.
Des mots forts de Jean-Noël Barrot pour répondre à la lettre co-signée par 52 députés du camp présidentiel. Une missive demandant des sanctions contre Francesca Albanese après que celle-ci a qualifié, selon eux, l'État juif ou les Juifs d'ennemis de l'humanité. Des propos que Francesca Albanese, interviewée sur France 24, dément absolument avoir tenus.
J'ai jamais, jamais dit Israël est l'ennemi commun de l'humanité. J'ai parlé des crimes d'Israël. J'encourage tout le monde à écouter ce que j'ai dit dans le forum de Al Jazeera.
Et en effet, la représentante onusienne ne prononce à aucun moment la phrase qui lui est reprochée. Mais pour le chef de la diplomatie française, c'est un cumul de déclarations depuis les attaques du 7 octobre qui justifie la décision de Paris.
Des propos qui s'ajoutent à une longue liste de prises de position scandaleuses, justifiant le 7 octobre, évoquant le lobby juif ou encore comparant Israël au Troisième Reich.
Pas convaincu. Pour la députée insoumise Mathilde Panot, qui évoque une décision basée sur une fake news engageant la politique étrangère de la France. Un signataire de la lettre exprime lui son malaise. « J'ai sûrement signé un peu vite », admet ce député, reconnaissant que les propos attribués à Francesca Albanese ont été détournés de leur sens initial.
Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, territoire toujours pris pour cible par l'État hébreu. Hier, des colons israéliens ont détruit une quinzaine d'habitations palestiniennes en Cisjordanie occupée.
RFI 7h07 à Paris comme à Liège où se tient un sommet informel des dirigeants de l'Union européenne.
Les 27 qui veulent travailler sur la compétitivité économique de l'Union européenne avec comme piste l'élimination des barrières internes, encore la préférence européenne, et ce alors que la part de l'UE dans le PIB mondial est tombée sous les 15%. Et dans le même temps, à Strasbourg, les eurodéputés vont eux débattre de l'accord commercial signé en juillet dernier en Écosse avec les États-Unis. Donald Trump et Ursula von der Leyen qui s'étaient mis d'accord pour limiter à 15% les droits de douane sur les importations européenne. Reste donc au Parlement de ratifier cet accord, sauf que depuis, Donald Trump menace le Groenland et l'hémicycle européen apparaît plus divisé que jamais. Nathanaël Vitran.
Manfred Weber, le patron allemand du PPE, le parti conservateur, fait partie des hommes pressés.
En ce qui concerne le commerce avec les États-Unis, nous avons besoin de certitudes au plus vite. C'est une question trop importante pour prendre le moindre risque.
Du côté des patriotes de Jordan Bardella, on est tout aussi favorable à une signature rapide. King Agal, membre du Fidesz de Viktor Orban, est vice-présidente du groupe d'extrême droite au Parlement.
Notre position est de ne pas attendre pour signer. Nous sommes en faveur de la désescalade.
Et puis il y a ceux que les récentes tensions autour du Groenland et les nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump ont échaudé. Comme l'explique l'eurodéputé socialiste Jean-Marc Germain, ils ont obtenu cette semaine de poser plusieurs conditions suspensives avant toute ratification.
Si les menaces de Trump sur le Groenland reprennent, s'il ne revient pas sur les droits douane qu'il impose sur l'acier et l'aluminium, non pas simplement sur la matière brute, mais sur tous les produits transformés, comme par exemple les machines à laver. Alors à ce moment-là, il y a une quasi-suspension automatique.
Les négociations portent aussi sur la durée d'application de cet accord, qui doit désormais se terminer avant la fin du mandat de Donald Trump.
Pour montrer que le pistolet des rétorsions possibles s'il venait à ne pas respecter l'accord est toujours sur la table.
Nathanaël Vitran, Strasbourg, RFI.
Et à la une de notre revue de presse internationale, cette question, Martin, l'Europe va-t-elle se réveiller ? Rendez-vous dans une heure après Telegram, autour de WhatsApp, de connaître de fortes perturbations en Russie.
L'application dénonce une tentative de la part de Moscou de bloquer complètement ses activités, et ce afin de pousser les citoyens russes vers une application concurrente, détenue par l'État et fortement contrôlée. WhatsApp qui compterait près de 100 millions d'utilisateurs selon le groupe Meta, propriétaire de l'application.
En France, non-lieu confirmé dans l'affaire Adama Traoré.
Au terme d'une bataille juridique longue de 10 ans, la famille d'Adama Traoré avait porté l'affaire devant la Cour de cassation. Un cas emblématique des violences policières en France. Le jeune homme de 24 ans, mort il y a 10 ans, à la suite d'un plaquage ventral de 3 gendarmes dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Un premier non-lieu avait été prononcé en 2023, faute d'éléments. Jugement d'abord confirmé en appel en 2024, puis hier devant la Cour de cassation. La famille Traoré n'a cependant pas épuisé tous les recours et compte continuer le combat, Alex Villeroy.
Cette décision met un terme à toute relance de l'enquête en France. Assa Traoré, la sœur d'Adama, dénonce ce qu'elle appelle un déni de justice.
Cette justice qui protège l'impunité policière, et on voit clairement que dans l'affaire Adama Traoré, ils ont peur de la vérité. Nous avons des expertises qui vont confirmer que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Le combat n'est pas fini.
Ce combat, l'avocat de la famille Yacine Bouzrou veut le poursuivre jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Car dans ce dossier, la justice française a toujours refusé de mener certains actes d'enquête, notamment des reconstitutions.
Aucune enquête sérieuse n'a été réalisée sur les violences commises par les gendarmes. L'inspection générale de la gendarmerie nationale, eux-mêmes ont indiqué qu'il fallait réaliser une reconstitution. Malheureusement, les juges d'instruction ont refusé et la Cour de cassation, qui aurait dû casser cette décision en obligeant la justice à faire les actes élémentaires d'enquête, a estimé que ce n'était pas nécessaire.
L'avocat espère donc une condamnation de la France devant la justice européenne.
Alix Villeroy, un non-lieu de la Cour de cassation dénoncé à gauche. Le député insoumis Thomas Porte évoque une justice française couvrant les violences policières. Le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, a lui au contraire salué cette décision. L'honneur des gendarmes est sauf, a-t-il réagi.
On se quitte avec un jeune dandy, véritable surdoué de la musique française.
Une voix de crooner à seulement 25 ans, Sam Sauvage est déjà nommé aux Victoires de la musique, catégorie révélation masculine, pour son premier album Mesdames, Messieurs, encensé par la critique. Mesdames, Messieurs, voici Sam Sauvage que nous fait découvrir José Marinho.
À la loterie génétique, c'est que des mathématiques.
Sam Sauvage a 25 ans. Il écrit, compose et chante. Son premier album, Mesdames, Messieurs, a été encensé par la critique. Entre New Wave des années 80 et écriture acide, sa plume frappe dans À vie de tempête, où il devient un présentateur météo face à la crise climatique. Pendant une dizaine d'années, Sam Sauvage a joué dans les bars. Et depuis 2024, en première partie des concerts de vedettes françaises, Zao de Sagazan, Feu Chatterton et même les Sparks, monuments du rock américain. Impossible de le rater avec Satignas en bataille, costard cravate noire et surtout cette voix grave qui a fait mouche sur les réseaux avec Les gens qui dansent. J'adore.
J'adore.
13 titres entre confidences et regards sur le monde des sans-abri aux migrants. Et contre toute attente, Sam Sauvage avance dans la tourmente. Mesdames, Messieurs, on termine avec La fin du monde, un morceau alarmant mais étonnamment optimiste.
Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore.
Le Sauvage de Sam Sauvage, à retrouver à la fin de RFI Matin, n'est-ce pas André Mella?
Et oui, c'est notre choix musical, ce sera juste avant de retrouver Juan Gomez. Merci Martin Guez, 7h13 à Paris. Le journal des sports sur RFI et on parle de l'Espagne. Ademola Lookman et l'Atlético visent la finale de la Coupe du Roi.
Les Colchoneros disputent la demi-finale aller ce jeudi dans leur antre du Metropolitano face au FC Barcelone. Un Atlético qui piétine en championnat mais brille en coupe, capable d'écraser le Betis en quart de finale 5-0 avant de s'incliner face à ces mêmes Sévillans en Liga trois jours plus tard. Difficile donc d'évaluer les Colchoneros, mais Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, ne veut pas enterrer son adversaire.
Atlético needs the respect because this is a fantastic team with a fantastic.
L'Atlético mérite du respect. C'est une équipe fantastique avec un très bon coach. En résumé, c'est un super club et au final, cette compétition est excitante. Jouer contre des adversaires de ce niveau, c'est pourquoi on aime le football. On doit se préparer correctement et tout donner sur le terrain pendant 90 minutes. Puis on devra sûrement améliorer certaines choses pour le match retour, mais on va y aller pas après pas. C'est notre objectif.
The next matches and this is what we want. one step up and this is our goal.
Atlético Barcelone, coup d'envoi 20h, temps universel.
En Angleterre, la fin de la 26e journée de Première Ligue.
Le leader Arsenal se déplace à Brentford, 7e, là aussi coup d'envoi 20h, temps universel.
Chez les dames, Antoine, défaite sur le fil pour le Paris FC face au Real Madrid.
Barrage allait délicat pour les franciliennes, défaite sous la pluie, 3-2 par des madrilènes chirurgicales. En marquant à la 89e, les joueuses du Paris FC ont toutefois entretenu le suspense en vue du barrage retour et c'est déjà une satisfaction pour l'attaquante Clara Matteo, passeuse décisive dans ce match.
On n'a pas baissé les bras, on a poussé jusqu'à la fin, on a fait preuve de solidarité, on a très bien entamé le match, donc c'est ça qu'il faut retenir aussi. Il faut réussir encore plus à concrétiser sur nos temps forts, parce qu'au début du match, on était vraiment dans des choses positives, donc faut continuer comme ça. Et après, ce qui nous a manqué, je pense que ça se joue à des détails. C'est dommage qu'on prenne ce troisième but, mais voilà, ce qui est bien, c'est que justement, on n'est pas resté abattu et qu'on a relevé la tête pour aller chercher ce but d'écart, on va dire. C'est vrai que sur certaines phases de jeu, on a fait preuve de maîtrise, donc il faut continuer de faire preuve de cette maîtrise et essayer encore d'être plus dangereuse, que ce soit offensivement et défensivement, solide dans les deux surfaces.
Clara Matteo avec Pauline Guillou, barrage retour mercredi prochain pour une place en quart de finale face au FC Barcelone.
On termine avec les Jeux Olympiques d'hiver de Milan. Cortina qui continue, journée faste hier pour les Français, 4 nouvelles médailles.
Avec le doublé hors argent sur le biathlon féminin grâce à Julia Simon et Lou Jean Monod, le bronze en ski de bosse pour Perrine Laffont. Dernier titre en fin de soirée à Milan avec le sacre du duo de patineurs Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry en danse sur glace. Déjà champions d'Europe, ils ont réussi leur pari, conquérir l'Olympe en étant partenaires depuis seulement un an, d'où l'immense choix de Guillaume Cizeron.
Laurence, c'était vraiment une championne avant d'être une championne. C'est quelqu'un d'extrêmement forte à tous les niveaux, une grande vulnérabilité aussi. Beaucoup de courage, énormément de courage. Et je dirais qu'on s'est autant appuyé l'un sur l'autre pour traverser toutes les épreuves qu'on a eues à traverser. Et je pense que le fait de croire l'un en l'autre, ça nous a donné énormément de force pour arriver jusqu'ici.
Guillaume Cizeron avec Matteo Cioffi.
Et c'était le journal des sports d'Antoine Grenier.
RFI Matin.
7h16 à Paris, c'est notre rendez-vous avec l'actualité économique. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
La compétitivité, voilà le sujet qui va réunir ce jeudi en Belgique les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Un enjeu crucial aujourd'hui. On en parle d'ailleurs très régulièrement avec vous le matin. Comment éviter que l'Europe ne dévisse face aux États-Unis, face à la Chine? Et au cœur de ce débat, Stéphane, une vieille idée remise au goût du jour cette semaine par Emmanuel Macron et qui divise, empruntée à l'échelle européenne.
Exactement, car traditionnellement, chaque pays du continent emprunte seul. La France émet sa dette, l'Italie ou l'Allemagne la leur. Chacun gère son financement par la dette, de manière autonome et indépendante. Sauf que certains États sont déjà très endettés, résultat leur capacité d'emprunt est très limitée. C'est là qu'intervient l'emprunt à l'échelle européenne, on appelle ça des eurobonds, des bons du Trésor européen en quelque sorte.
Donc l'idée en fait c'est d'emprunter ensemble pour investir ensemble.
C'est tout à fait ça, oui, plutôt que d'avoir 27 dettes nationales fragmentées, l'Europe émettrait une dette commune capable d'attirer les investisseurs du monde entier. L'enjeu, il est double: financer les investissements stratégiques et renforcer le rôle international de l'euro face au dollar. Alors si sur le papier le projet semble solide, dans les faits c'est beaucoup plus compliqué que ça. On en parlait déjà lors de la crise de la zone euro en 2010-2012, mais ça avait été rejeté notamment par l'Allemagne et les pays frugaux comme les Pays-Bas ou la Finlande. Aujourd'hui, c'est encore le cas pour Berlin, championne de l'orthodoxie budgétaire du continent, hors de question d'emprunter de la sorte.
Pourtant, ça a déjà été fait pendant le Covid, non ?
Eh oui, en 2020, l'UE a lancé un plan de relance financé, c'est vrai, par un emprunt commun de 750 milliards d'euros. C'est loin d'être anecdotique, puisque pour la première fois, Bruxelles s'est endettée au nom des 27. 6 ans plus tard, l'initiative est donc évoquée pour 3 raisons. D'abord la défense, l'Europe doit se réarmer. Ensuite, la technologie, puisque le continent doit être au point dans l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs notamment. Et puis évidemment, la transition écologique. On parle là d'une estimation de 1200 milliards d'euros si l'on s'en tient au rapport Draghi. Sans ces investissements, l'Europe risque d'amplifier sa dépendance technologique, militaire et énergétique à Washington et Pékin. Les eurobonds apparaissent ainsi comme des outils pour changer d'échelle et avoir une marge d'endettement bien plus importante. importante.
Oui, emprunter plus et surtout un emprunt qui coûterait relativement moins cher.
Exactement, les conditions d'emprunt seraient bien meilleures que celles de nombreux États membres. Mutualiser une partie de la dette, ça réduirait aussi le risque de crise financière dans les pays fragiles. Et puis au niveau géopolitique, ça créerait un grand marché des obligations européennes. Mais il y a en effet des opposants. On le disait, hein, l'argument principal, c'est qu'ils ont peur que certains pays relâchent leurs efforts budgétaires en profitant de cette mutualisation de la dette. Pour simplifier, Andréane, qu'ils profitent de la solidité financière des autres États. Car en fait, ce dont il s'agit, c'est bien de la force collective de l'Union européenne et non plus État par État, afin de rester un grand acteur sur la scène internationale.
Stéphane Genest pour aujourd'hui l'économie sur RFI. Tout de suite, on passe à notre grand invité international. Dans notre studio ce matin, face à Arnaud Pontus, Joshua Zarqa, ambassadeur d'Israël en France.
Bonjour Joshua Zarqa.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Avant d'en venir à la rencontre Netanyahou-Trump, quelques mots de l'appel du ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot demande la démission de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Il l'accuse d'être une militante politique qui agite des discours de haine. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Bravo Barrot, bravo la France.
Bravo la France, tout à fait. Bravo la France. C'est bravo Barrot. Je félicite le ministre des Affaires étrangères français pour cette décision et ce lead qu'a pris la France. Et j'appelle les pays européens à suivre cela. Albanese, effectivement, n'est qu'une militante. Elle a toujours été depuis longtemps. Elle a accusé Israël des choses les plus terribles. Elle a même accusé le Mossad israélien d'être derrière les attaques de Charlie Hebdo, etc. Donc c'est une militante du plus bas degré.
Sauf que là, en l'espèce, le ministre réagit à une phrase qui a été attribuée à Francesca Albanese, « Israël est l'ennemi commun de l'humanité », phrase que Francesca Albanese n'a pas prononcée, qu'elle dément avoir prononcée. Est-ce que ça vous gêne ?
Non, il faut écouter exactement ce qu'elle a dit. Elle parle d'Israël, elle parle du fait que la communauté internationale, soi-disant, a laissé Israël faire ce qu'elle voulait.
Elle parle d'un système.
Non, elle parle d'Israël, et finalement elle dit, et il est maintenant très clair que l'humanité a un ennemi commun, en parlant d'Israël. Ensuite, elle a essayé de se rattraper. Non, ce n'est pas vraiment d'Israël que je voulais parler, c'est du système, mais il est clair,
Pour vous, il n'y a pas de doute, Francesca Albanese est antisémite, elle est discréditée, elle n'a plus à être à ce poste.
Aucun doute, elle n'aurait jamais dû être à ce poste, c'est une honte pour l'ONU, c'est une honte pour le système international, et c'est une honte pour la communauté internationale qu'une telle personne ait été à ce poste jusqu'à présent. Et encore une fois, l'ONU ne l'a pas encore renvoyée, elle est encore sous la paix de l'ONU.
Joshua Zarqa, ces 20 dernières années, les prédécesseurs de Francesca Albanese ont régulièrement été critiqués, attaqués, accusés d'être antisémites. Est-ce que c'est l'existence même de ce poste de rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens qui pose problème à Israël ?
Non. L'ONU n'est pas un grand ami d'Israël parce que, à cause du fait qu'il y a une majorité de pays non démocratiques qui votent automatiquement, pratiquement chaque fois, contre Israël. Mais je mets ça de côté. Albanese est une personne qui a fait promouvoir les théories de conspiration les plus basses qu'il existe.
À la lumière de cette affaire, après l'appel de Jean-Noël Barrot, est-ce que vous diriez que ça va mieux entre la France et Israël ?
Les relations entre la France et Israël iront mieux, vont mieux. C'est vrai qu'il y a une période de crise, il y a une période de crise de confiance.
Vous en voulez toujours à Emmanuel Macron d'avoir reconnu l'État palestinien en septembre ?
C'est pas la question de la reconnaissance, comme quand ça a été fait, de la manière dont ça a été fait, et le fait que ça a été fait sans condition. Mais on en a parlé suffisamment, je crois que j'en ai parlé suffisamment sur ce plateau
ici même,
donc ce n'est pas à répéter. Nous œuvrons, que ce soit la France et que ce soit Israël, pour remettre ces relations sur le bon chemin, et petit à petit, nous y arriverons. Et ça, la déclaration de M. Barrot d'hier est un pas important dans ce chemin.
Un pas important peut contribuer à une réconciliation, un réchauffement des relations entre la France et Israël.
Chaque déclaration, chaque pas comme cela est quelque chose d'important dans nos relations bilatérales, recrée cette confiance qui a un peu été heurtée.
Joshua Zarqa, venons-en à cette rencontre. Benjamin Netanyahou avec Donald Trump, 7e fois dans le bureau ovale ce mercredi. Ils ont parlé de l'Iran, évidemment. évidemment. Est-ce que le Premier ministre israélien est sorti rassuré de la Maison-Blanche ?
Il y a une discussion, ce n'est pas, comme vous dites, c'est la septième fois. Les relations entre le président et le Premier ministre, le président Trump et le Premier ministre, sont de relations très très proches et de confiance totale. Alors, bien sûr, le Premier ministre, en sortant de cette relation, de cette réunion, ne parle pas du contenu de ce qui a été dit.
Ni l'un ni l'autre n'ont dit grand-chose. Hein. Et la presse n'était pas là, pour une fois.
Et la presse n'était pas là. Et je pense que, fondamentalement, les deux veulent vraiment donner une occasion à la diplomatie de résoudre le problème, la crise iranienne.
Ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que Israël souhaite la poursuite de ces négociations engagées avec, entre les États-Unis et l'Iran il y a une semaine à Oman ?
Israël souhaite trouver une solution véritable, fondamentale, aux capacités nucléaires, balistiques et de déstabilisation iranienne.
Oui, une solution, ça passe pas forcément par des discussions. Est-ce que c'est l'option préférée d'Israël ?
Vous savez, si vous vous rappelez de la guerre des 12 jours, Israël a reçu des dizaines et des dizaines, des centaines même, je dirais, oui, de missiles, de drones.
Missiles de
et il y a eu des morts en Israël, donc ce n'est jamais préférable. Ce qui est préférable, c'est que l'Iran accepte de n'avoir aucune option nucléaire et accepte de ne pas être capable de menacer la région.
Mais vous qui connaissez bien ce dossier, est-ce qu'on peut discuter avec le régime iranien ? Est-ce qu'on peut négocier ?
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose à négocier avec ce régime ?
Discuter, oui. Négocier, oui. Mais il n'y a aucune confiance. Il faut comprendre. Il n'y a aucune confiance.
Oui, mais si on négocie en se disant que les autres mentent ou qu'il y a zéro confiance,
il est clair qu'ils mentent. Mais si une solution sera trouvée, il faudra ensuite, après que la solution soit trouvée, mettre sur pied des mécanismes de vérification, ce qu'on appelle dans le jargon international les mécanismes de vérification, est très intrusif, qui permettront à la communauté internationale d'être sûre que ce que l'Iran a dit qu'elle ferait sera fait.
Bon, sur les options, est-ce qu'Israël préfère une intervention militaire américaine ?
Israël préfère une solution qui soit trouvée par les voies diplomatiques. Vous savez,
une intervention militaire.
Non, exactement.
Hein,
une intervention militaire voudrait dire que, encore une fois, Israël recevrait des dizaines et des centaines.
En représailles, en riposte iranienne, comme la dernière fois.
Des centaines et des centaines de missiles. Donc, ce qui n'est pas bon pour personne.
Ouais. L'hypothèse d'une opération militaire, pour vous, c'est non ? Il faut l'exclure.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Ça n'est pas votre préféré, j'entends bien.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je choisis mes mots, je fais attention à ce que je dis.
Je l'entends bien, monsieur l'ambassadeur.
Je dis d'une façon très claire, la solution qui ne laisserait pas entre les mains des Iraniens des capacités nucléaires et des capacités balistiques de longue portée qui puissent menacer l'État d'Israël n'est pas acceptable pour Israël. Il est préférable que cela soit atteint par le biais de négociations.
De la diplomatie,
exactement,
de la discussion. Est-ce que Israël souhaite la chute du régime iranien ?
Bien sûr. Mais bien sûr.
Plus que jamais ?
Non, pas plus que jamais, ça a toujours été beaucoup. Donc c'est pas plus que ça a toujours été au même niveau. Mais bien sûr, parce que ce régime est derrière tout ce qu'il se passe de mauvais au Moyen-Orient. Regardez la région, regardez, c'est un régime révolutionnaire qui a pour but de changer la région, de changer le caractère de la région en utilisant le terrorisme, la force, la déstabilisation. Regardez ce qui se passe au Liban, c'est l'Iran. Regardez ce qui s'est passé en Iran pendant 600 000 morts et des millions d'expatriés, de réfugiés de Syrie, c'est l'Iran. Regardez ce qui se passe en Irak depuis qu'il y a soi-disant une démocratie.
Donc
c'est
vous souhaitez la chute de ce régime.
Bien
sûr. Est-ce qu'il est logique dans ce cas, si on souhaite la chute d'un régime, de discuter et négocier avec lui, de tenter la voie diplomatique pour obtenir ce que l'on souhaite ?
Oui, parce que, encore une fois, il n'y a aucune façon, on ne croira jamais ce qu'ils diront. Donc il faudra mettre en place des systèmes de vérification très intrusifs qui nous permettront de vérifier ce que est fait et ce que n'est pas fait par les Iraniens, par ce régime.
Il nous reste à peine une minute, je voudrais qu'on dise un mot de Gaza. Quand est-ce que le terminal de Rafah sera rouvert au convoi humanitaire ?
Une fois que le Hamas ne sera plus sur place. Il est clair, vous savez.
Monsieur l'ambassadeur, pour préciser, en une semaine, 179 Palestiniens qui ont pu quitter l'enclave. Oui. On parle de 2000, de milliers de personnes qui nécessiteraient de sortir.
Oui.
Est-ce que c'est satisfaisant ? Mais on parle de sortir, je ne parle pas d'entrée.
Non, mais bien sûr que ce n'est pas satisfaisant, mais un accord a été atteint. Cet accord dit d'une façon très claire que le Hamas doit se désarmer. D'accord ?
Et déposer donc, les armes.
Et déposer les armes, doit se désarmer. Le Hamas a signé cet accord, a été d'accord pour cet accord, et donc a accepté cet accord. Et donc, on ne sommes plus dans une situation aujourd'hui au Moyen-Orient où des acteurs peuvent dire je suis d'accord pour faire cela, X, et ensuite, après deux jours, dire ah non, 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 ça ne me plaît plus. Non,
le Hamas. Mais des sorties au compte-goutte.
Non, non, non. Le Hamas.
Ça n'est pas envisageable d'amplifier le rythme de sortie.
Tant que le Hamas sera sur place et armé, il n'y aura pas de changement. Il est clair que l'accord dit le retour des forces israéliennes sur la ligne jaune, ensuite le désarmement du Hamas, et c'est ce qui a été fait.
Merci, monsieur l'ambassadeur, d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, à l'approche du Ramadan, le gouvernement se veut rassurant. Les prix des produits alimentaires ne flambent pas grâce aux inspections de la brigade de contrôle rapide. Mais le plafonnement des prix est-il vraiment respecté? Des mesures sont-elles prises également dans votre pays pour encadrer vos dépenses? 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
Retrouvez RFI sur YouTube. La radio mondiale est présente sur la plus grande plateforme de vidéos en ligne du monde.
Sur notre chaîne dédiée, vous pouvez écouter RFI en direct 24h sur 24, mais aussi découvrir chaque jour des vidéos d'actualité internationale et africaine, des reportages, des interviews et des podcasts.